L'Union européenne est l'un des premiers donneurs d'aide à l'autorité palestinienne. Une étude datant de 2020 révèle le manque de transparence de ces financements, souvent difficilement traçables, et a révélé que certaines ONG recevant ces aides avaient des liens étroits avec des factions terroristes. Lucie Gilson a rencontré et en a parlé avec Vincent Chebat, directeur du département francophone NGO Monitor, auteur de cette étude.
La Commission européenne a déclaré vendredi qu'elle avait adopté un programme d'aide de 118 millions d'euros pour soutenir l'autorité palestinienne. Donc pour en discuter, on interroge Vincent Chebat, directeur du département francophone de NGO Monitor, sur ce débat de la direction de l'Union européenne à propos de financement d'ONG pro-palestiniennes. La Commission a précisé que cette aide permettrait de payer les salaires et les pensions de fonctionnaires en Judée-Samarie et de verser des allocations sociales aux familles vulnérables et de financer les transferts de patients vers les hôpitaux de Jérusalem-Est. Ce financement va-t-il arriver à bon port selon vous?
Ça, c'est toujours une question à 1 million de dollars. Hein. C'est jamais vraiment évident de connaître la réponse. Ce qui est sûr, c'est que depuis de nombreuses années, l'autorité palestinienne est donc sous le feu des critiques de plusieurs organismes, donc en Israël ou même en Europe, comme quoi elle utiliserait donc des fonds justement pour payer, par exemple, le salaire de terroristes qui sont donc emprisonnés en Israël, pour aider donc les familles de ces terroristes à survivre. Et c'est vrai que quand on finance au moyen donc de subventions européennes les salaires de gens qui ont commis des attentats, c'est extrêmement problématique parce qu'en définitive vous donnez donc une sorte d'incentive comme ça à continuer justement à faire des attaques terroristes, que vous savez en définitive que vous aurez toujours un salaire derrière, que votre famille sera soutenue. Donc c'est vrai que c'est toujours problématique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà donc de l'aide à l'autorité palestinienne, la Commission européenne finance aussi depuis des années des ONG palestiniennes pour la mise en œuvre de projets. Et nous, ce qu'on sait à NGO Monitor, c'est que de nombreuses ONG, donc qui sont récipiendaires des fonds européens, ont souvent, on va dire, des liens avec des organisations terroristes comme le Front populaire de libération pour la Palestine, certaines avec le Hamas aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la suite donc du massacre du 7 octobre, la Commission européenne a donc diligenté une sorte d'audit de ces fonds, et elle en est venue à la conclusion qu'effectivement des fonds avaient été distribués à des ONG dont l'ONG elle-même ou alors leurs employés avaient donc glorifié les attaques et les massacres du 7 octobre. Et donc, en conséquence de quoi, la Commission a décidé d'introduire des nouvelles clauses dans ses contrats avec les ONG, des clauses donc pour lutter contre l'incitation à la haine, à la violence, la glorification du terrorisme et peut-être aussi même la lutte contre l'antisémitisme. Donc il y a quelque chose de positif derrière tout ça. Mais de manière en générale, effectivement, quand il s'agit donc de fonds et en particulier donc de fonds des subventions publiques de l'Union européenne, des différents membres de l'Union européenne, il faut avoir un regard extrêmement attentif sur les récipiendaires de ces fonds, mais aussi des projets qui sont soutenus, parce que bien souvent, ces projets ne sont pas forcément, n'ont pas vocation à être des projets humanitaires, mais bien des projets, on peut dire même politiques, contre Israël.
Alors, comment y remédier à ça, justement?
Alors justement, comme je vous ai donné un exemple, c'était justement l'introduction donc de nouvelles clauses contractuelles qui en de manière pratique, on va dire, mettraient toute la responsabilité sur l'ONG. C'est-à-dire que si par exemple demain une organisation comme la nôtre, NGO Monitor, on découvre que par exemple un employé ou un membre du conseil d'administration d'une ONG tient des propos par exemple sur Facebook ou Twitter qui ont, on peut dire, qui glorifient le terrorisme ou qui appellent au meurtre d'Israéliens ou de Juifs. Alors, dans ce cas-là, l'ONG qui a signé donc ces clauses anti-incitement devrait donc, de manière automatique, perdre ses subventions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais ces clauses, c'est pas uniquement contre la lutte contre l'incitation à la haine ou à la violence, mais ça peut être aussi des clauses antiterroristes qui sont introduites dans les contrats de l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé donc en 2020, lorsque la Commission avait introduit des nouvelles clause antiterroriste. Et justement, dans l'audit qui a été publié il y a quelques jours en arrière par la Commission, on peut voir que il y a à peu près 13 ou 14 ONG qui devaient recevoir normalement 14 millions d'euros de subventions publiques, c'est quand même beaucoup d'argent, 14 millions d'euros, qui ont refusé cet argent justement pour ne pas signer ces clauses antiterroristes. Donc c'est quand même assez choquant et surprenant, surtout quand on parle d'ONG qui sont censées représenter les droits de l'homme.
Alors, du coup, vous l'avez évoqué, ces ONG, c'est lesquelles exactement? Quels sont leurs statuts en fait?
Alors, bon, il y a beaucoup d'ONG palestiniennes, par exemple, une des principales, on peut, qui s'appelle Al-Raq. C'est une organisation palestinienne qui a été créée donc dans les années 80, qui est basée à Ramallah et dont le directeur n'est autre que Shawan Jabarin. C'est un activiste du FPLP de longue date qui a été condamné par le passé donc par Israël pour avoir donc recruté des membres à l'organisation terroriste du FPLP. Il était également représentant du FPLP auprès des différentes réunions de l'OLP jusqu'en 2011. Et il y a 2 ans en arrière, à NGO Monitor, nous avons trouvé que ce Jawan Jabarin avait également participé donc à une soirée, comment dire, rendant hommage à un des terroristes du FPLP qui avait donc fait un détournement d'avion, El Al, en 1968. Donc il y a vraiment une grosse proximité entre cet homme et le FPLP. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, cette personne, comme je dis, fait partie donc d'une ONG qui est reconnue par l'Union européenne, par l'Europe et même jusqu'aux États-Unis comme une ONG donc qui est censée donc représenter les droits de l'homme des Palestiniens. Et donc ça, qui est une grosse dissonance. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la Cour suprême israélienne, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en 2009, avait donc qualifié ce Jawan Jabari de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en disant que d'un côté, c'est le représentant d'une ONG censée représenter les droits de l'homme, et de l'autre côté, c'est donc un activiste au sein d'une organisation terroriste. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que cette ONG reçoit beaucoup d'argent donc du contribuable européen depuis des années. Et d'ailleurs, Israël a classé cette ONG en 2021 comme organisation terroriste, car elle l'avait accusée donc d'avoir détourné des fonds publics européens justement pour le FPLP. Donc vous avez par exemple cette ONG Al-Raq, mais vous en avez des dizaines d'autres aussi, hein. On peut compter à peu près une dizaine qui sont liées avec le FPLP, mais après vous avez d'autres organisations qui sont aussi extrêmement à la pointe du combat contre Israël, notamment à la Cour pénale internationale ou dans les campagnes de boycott d'Israël. Encore une fois, c'est des ONG qui ne défendent pas forcément le Palestinien en lui apportant justement des solutions humanitaires, mais plus des ONG qui sont à la pointe du combat dans la délégitimation de l'État d'Israël.
Et comment évaluez-vous la réaction de l'Union européenne face à vos alertes au fil des années? Est-ce qu'il y a eu des changements significatifs dans leur approche ou dans la manière dont ils gèrent le financement des ONG?
Alors, comme je disais au début d'interview, c'est vrai que malheureusement, le massacre du 7 octobre a effectivement fait un peu évoluer les lignes. C'est-à-dire que si jusqu'à aujourd'hui l'Union européenne était relativement sourde et aveugle vis-à-vis de ses financements, déjà aujourd'hui ils ont décidé de faire un audit. Donc c'est quand même important. Alors bien sûr ils ont dit on n'a pas trouvé d'argent qui a été détourné pour le terrorisme. Bon c'est un peu une réponse facile parce que bon c'est très difficile de trouver ça en moins d'un mois d'audit. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'introduction donc de clauses contre l'incitation à la haine et à la violence. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça montre encore une fois qu'il y a quand même une prise de conscience à certains échelons de la Commission européenne qui disent attention, il faut faire, faut prendre beaucoup plus de précautions dans nos financements justement parce que bon, c'est quand même embarrassant quand vous avez donc des ONG qui portent le logo donc de la Commission européenne ou alors où c'est écrit carrément qu'elles sont subventionnées par différents États européens et qui d'un autre côté donc font carrément l'appel au meurtre ou justifient les attentats et les atrocités du 7 octobre. Donc c'est très embarrassant. Je pense que c'est une des conséquences donc de ces massacres, cette prise de conscience, et j'espère que bon, Dès 2024, ces nouvelles clauses seront introduites dans les nouveaux contrats.
D'accord. Et alors du coup, hors antenne, vous m'expliquiez qu'il y avait eu des développements récents, notamment un article dans l'Écho. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, depuis quelques semaines, justement, encore une fois, à cause du massacre du 7 octobre, tout d'un coup, la presse européenne, mais aussi certaines agences, donc des différents ministères de l'Intérieur des différents pays européens, commencent à révéler effectivement l'existence d'un certain réseau du Hamas en Europe. Et dont certains donc activistes, certains individus sont aussi donc à la tête d'organisations qui sont en fait des organisations écrans du Hamas, qui ont pour but de faire du lobby auprès notamment de la Commission européenne. Donc c'est le cas par exemple d'un activiste qui s'appelle Majed Amser, je crois, je veux pas dire de bêtises sur son nom, mais donc différents médias européens ont publié son nom et ses activités ces dernières semaines. Et c'est vrai qu'à NGO Monitor, nous avons fait un peu de recherche justement, en particulier sur la Belgique, et nous avons trouvé donc dans le moniteur belge en fait, c'est où toutes les ASBL, donc toutes les associations sont enregistrées. On a fait une petite recherche et on a vu qu'il y avait effectivement des organisations qui étaient liées au Hamas ou des organisations qui avaient été donc classées par Israël comme terroristes à cause de leur lien avec le FPLP, qui se sont donc constituées en Belgique. Et à cela, on peut ajouter aussi des organisations comme le CCIF, donc une organisation française qui a été dissoute par Gérald Darmanin pour ses connivences avec l'islamisme radical, qui a décidé aussi de se constituer en Belgique. Donc le but de ce papier qui a été publié donc ce matin, c'est de montrer que la Belgique en définitive est devenue une sorte de repère pour les organisations les plus radicales donc en Europe. Et que j'espère qu'en définitive, certains décideurs, politiciens, donc liront cet article et poseront les questions nécessaires auprès du gouvernement pour justement essayer de remédier à cette situation.
Eh ben, on l'espère aussi. Vincent Chebab, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de
Merci
Radio
beaucoup à vous.
Judaïka. Je rappelle que vous êtes directeur du département francophone de NGO Monitor et du coup, vous intervenez sur le débat de la direction de l'Union européenne à propos du financement d'ONG pro-palestinienne. Je vous remercie.
Merci beaucoup.